Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il y a ceux qui ne connaissent qu'un seul mot.
Voilà.
Et ceux, comme lui, qui en connaissent des milliers et surtout qui en inventent de nouveaux. Stéphane nous offre la quintessence de ses recherches sur François Rabelais dans un récit qui sera, espérons-le, sans anicroche.
Quintessence, anicroche, du Rabelais dans le texte, et j'imagine sans faire exprès, Mathieu. Le français, comme toute langue, évolue constamment. Parmi ceux qui l'ont magnifié, bien avant Molière, qui en est devenu le porte-drapeau, il est en effet un personnage à part, François Rabelais. Aujourd'hui considéré comme l'auteur à qui notre langue doit le plus de mots. Grand pourvoyeur de néologismes, Rabelais a étoffé le français avec un certain génie. Ça tombe bien, le mot est de lui. Et nous a laissé nombre de mots en héritage. Comment a-t-il pu être si innovant? Cela tient sûrement de sa personne autant que de son époque. Probablement né vers 1494 dans un milieu bourgeois en Touraine, nous connaissons peu de choses de la vie de Rabelais avant qu'il ne s'engage dans les ordres monastiques dans les années 1520. Nous sommes alors dans l'effervescence de la Renaissance. Parti d'Italie, un élan culturel favorisé par l'imprimerie s'est étendu à l'Europe et s'incarne notamment dans l'humanisme, mouvement de pensée qui redécouvre les langues et cultures antiques et envisage une nouvelle approche de la connaissance, de la religion, des arts et du monde en général. L'époque de Rabelais est donc celle d'un dynamisme intellectuel qui s'ébroue dans un environnement linguistique bien éloigné du nôtre, laissant toute la place à son inventivité. L'idiome du savoir et de sa transmission reste le latin. Cette langue survivante qui a bien changé depuis la Rome antique demeure celle que lisent et écrivent les élites. Mais tous les lettrés sont polyglottes, à l'image de la France elle-même, et parlent aussi des langues vernaculaires. Le français en est une parmi la multitude des langues d'Oyle au nord, d'Oc au sud. Et puisqu'il est la langue du roi à l'époque François Ier, le français est donc la langue du royaume étant à s'y développer. Au début du XVIe siècle, 90% des publications sont encore en latin. Mais le français ne cesse de s'affirmer à l'écrit. En 1539, le premier dictionnaire est publié. La même année, vous connaissez évidemment cette date importante dans notre histoire, ce sont les ordonnances de Villers-Cotterêts qui imposent le français dans les actes administratifs. Et d'ailleurs, le château de Villers-Cotterêts sera bientôt entièrement restauré et dédié à la francophonie.
Magnifique.
En cette décennie de 1530, après avoir rompu ses vœux pour étudier à l'université de Montpellier, l'une des plus anciennes de France, rappelons-le, Rabelais est désormais médecin à Lyon, où en plus de soigner, il écrit notamment ses deux célèbres ouvrages, Pantagruel, publié en 1532, et Gargantua, deux ans plus tard. Ses récits narrant la vie de deux géants sont à la fois des contes merveilleux et des romans d'apprentissage comico-satiriques, foisonnants de personnages qui ponctuent les aventures des deux héros éponymes. Héros qui incarnent l'idéal d'un homme complet, nourri autant par l'humanisme que les grivois et populaires plaisirs de la vie. Les aventures se poursuivront dans trois autres livres entre 1546 et la mort de Rabelais en 1553. Ses ouvrages, du moins les deux premiers, Rabelais les signe sous le pseudonyme d'Alcofribas Nazier, son anagramme. Compliqué, vous en conviendrez. Une facétie tout sauf anodine. Elle le protège des condamnations de la puissante université de la Sorbonne qui veille à tout ce qu'elle pourrait juger licencieux. Une façon aussi de distinguer son travail scientifique rédigé en latin de sa création romanesque qui, elle, s'écrit en français. Ce français non encore codifié, malléable, qu'il va explorer, agrémenter en mettant à profit son érudite créativité pour lui donner forme et substance. Entendons-nous, néologiser ne signifie pas forcément créer des mots à partir de rien. Rabelais connaît les langages qui l'entourent, il identifie des carences, des possibilités, il extrapole, il adapte et laisse les mots se former. Il invente par exemple en se basant sur le latin. Ainsi, les mots tergiversés, de tergiversaris qui signifie en latin tourner le dos, ou encore célèbre, issu de célébris utilisé en latin classique pour parler d'un lieu fréquenté par une foule nombreuse. Mais les exemples sont innombrables, Mathieu. Fort de ses connaissances encyclopédiques, tiens, c'est un autre mot de lui, Rabelais crée aussi à partir du grec, par exemple, les mots automate, alter, sans H à l'époque, ou encore panique, dérivé du nom du dieu Pan. Il francise d'autres langues, comme l'italien, qu'il connaît, pour avoir voyagé dans la péninsule et en tire par exemple les mots balle, caresse ou torticolis. L'œuvre de Rabelais est d'une densité insondable. Les mots se succèdent dans une joyeuse outrance, des énumérations sans fin, des descriptions exhaustives et des cohortes d'adverbes ou d'adjectifs. Il emprunte et dérive avec une grande liberté, crée des mots imagés. Ainsi, se prélasser vient du mot prélat et sous-entend pour Rabelais marcher en se donnant un air important. Et il ne se borne pas aux Français de Paris et de la cour, il pioche dans les parlers locaux les mots qui lui semblent utiles. Il adapte par exemple le mot « badaud » du provençal, auquel il prend aussi le mot « esclaffé » qui signifie « éclater »,« frapper fort », pour le tourner dans le sens de « s'esclaffer de rire ». C'est marrant, non ?
C'est hilarant, mais surtout c'est stupéfiant de voir le nombre de mots qu'il a inventé.
Et le rire, justement, est important, pour ce qu'il est le propre de l'homme, écrit-il dans l'avant-propos de Gargantua. Rabelais est médecin, un savant, mais il est surtout un rigolard, héritier du rire populaire médiéval, carnavalesque, paillard et même scatologique. Ses héros ne cessent de boire et ripailler, ça vient du château de Ripaille, entre quelques flatulences. Rabelais est aussi l'héritier d'un humour antique et savant qui s'exhibe dans les acrobaties verbales. Ainsi s'en prend-il, à la fin de Pantagruel, aux hypocrites qui ne pensent qu'à nuire, articulant, monarticulant, torticulant, cultant, couitant, diabliculant, c'est-à-dire calumniant. On aura ainsi saisi la truculence de la répétition de la syllabe Q, déclinée avec brio dans la fabrication de ces adverbes. Ce court exemple montre aussi qu'au-delà des mots rabelaisiens qui demeurent aujourd'hui, ce qui prouve leur pertinence et leur utilité, il y a tous les autres, et ils sont nombreux. Si l'on emploie toujours indigène, guttural, athlétique, factice, frugal, patriotique, oh je m'arrête là, je pourrais continuer bien plus longtemps, les néologistes se trouvent par centaines, si c'était par milliers dans les œuvres de Rabelais, et beaucoup ne connaîtront qu'une seule occurrence. C'est d'ailleurs ce qui rend la lecture parfois aussi difficile qu'exaltante. La langue, pour Rabelais, n'est pas qu'un instrument de communication, elle est un jeu et un infini champ des possibles. Et il puise dans les langues anciennes étrangères, techniques, savantes et régionales, pour former un français nouveau, dont on peut même se demander si tout le monde le comprenait. En effet, s'il eut l'occasion de s'instruire, de voyager et d'être confronté à de nombreux parlers locaux, ce n'est pas forcément le cas de tous ceux qui le lisent. Son vocabulaire est d'une telle richesse qu'il faut faire l'effort de se laisser aller aux évocations, aux connotations, à la dimension métaphorique des sons. Il faut un esprit aussi ouvert que son lexique pour le comprendre. Rabelais explore plus qu'il ne normalise, il propose une langue plus qu'il ne la fonde. D'autres grands esprits de son siècle suivront, Du Bellay, Ronsard, Dora et leurs amis de la Pléiade continueront d'inventer le français pour le hisser au rang des langues classiques avant que le XVIIe siècle et l'académisme ne viennent le sanctuariser, l'emprisonner, diraient certains, en fixant le vocabulaire, la syntaxe et la grammaire. Selon les plus récentes études, environ 500 mots attestés pour la première fois sous la plume de Rabelais font aujourd'hui partie de notre vocabulaire. Étrangement, pourrait-on penser, lui qui passa son temps à inventer des mots, il n'a pas pensé au mot néologisme qui n'émerge qu'au XVIIIe siècle. Cela traduit sûrement sa vision d'une langue qui n'a pas de limite. À quoi bon caractériser ce qui est nouveau alors que tout est en construction et en train d'advenir ? Pour Rabelais, tout est possible. Et c'est à la fois le passé, le présent et l'avenir de la langue française que l'on peut lire dans ce qu'il écrit.
Europe 1, historiquement vôtre.